Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Dans le bureau de Par Jupiter, toute l'équipe est en vacances, sauf une irréductible belle.
Salut les amis, un petit message pour vous laisser les instructions, hein, parce que c'est pas parce que c'est les vacances qu'on va se laisser aller. Alors on a bossé à fond sur les florilèges, ils sont au poil, mais faudrait pas donner l'impression qu'on se relâche. Alors voilà ce que je vous propose, on va mettre en place un système de tournante, enfin non, de roulement, voilà, toute la semaine. Chaque jour, l'un d'entre nous fera la permanence de Par Jupiter. Aujourd'hui, c'est moi, et puis ensuite, vous irez à tour de rôle. Voilà, je veux pas laisser la maison sans surveillance, on sait jamais ce qui peut se passer, imaginez qu'on retrouve Xavier Dupont de Ligonnès, hein, ou pire, on repère Valérie Giscard. Ça, voilà, ce serait une catastrophe. Hein. Voilà, allez, je vous embrasse et surtout, passez d'excellentes vacances. Hein.
12h15, dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, moi, je vais aller me faire un petit tour à la cantine, moi. Bon, il y aura peut-être des frites. Hein.
16h30, dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, la vaisselle, c'est fait. Trier le courrier, voilà, c'est fait. Réparer le store, ça, j'ai fait aussi. Ranger les livres, ouh, c'est fait. Et... Oh, t'as dit donc, histoire politique du 20e siècle, oh, en 3 tomes, oh là là, formidable.
16h37, Charline s'endort sur des archives de 1965. Un discours, pourtant passionnant, de Jean Le Canuet.
Nous n'avons pas davantage à nous enfermer dans l'histoire. Nous avons plutôt à nous adosser à l'histoire.
La France Inter, vous écoutez la seule émission qui n'a encore jamais reçu Pierre Arditi, ce qui constitue un exploit. En revanche, Par Jupiter est le seul programme de France Inter à avoir reçu Frédéric François. Ça, et ça, possible. Ah oui, ça mérite une réécoute. Il nous parle de son dernier album de chansons d'amour pour s'échauffer. Et une fois qu'il sera bien chaud, on attaquera les sujets d'actualité. La jeune, capitaine de bateau qui a risqué la tôle pour avoir sauvé des migrants, Pia Klemp. Et puis l'anglais qui crée des complexes chez ceux qui ne parlent pas la langue. Puis à la mi-temps, on changera de partenaire de jeu pour discuter avec le collectif théâtral L'Avantage du Doute, composé de Judith Davis, Claire Dumas, Simon Bacouche, que vous avez peut-être vu dans le film Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Alors on a évoqué avec eux le grand débat qui ressemblait beaucoup à une accumulation de propositions individuelles plutôt que des propositions globales. Et nous avons soumis cette question aux comédiens. Existe-t-il des patrons de gauche? Alex, comme
oui,
chez nous, le grand soir, c'est tous les soirs. Qu'est-ce qu'il nous reste comme chroniqueur?
Ben, le grand soir, c'est avec une belle équipe, Charline. Aujourd'hui, Thomas Croisière a rendu un vibrant hommage à Frédéric François, comme je le comprends. Ensuite, Guillaume Meurice s'est occupé du bonheur au travail, sans se soucier de savoir si l'avoir comme collègue, lui, était un bonheur pour nous au travail. Et puis, Pablo Mira nous a expliqué pourquoi Game of Thrones, c'était bof bof, en fait. Et on terminera, comme toute cette semaine, avec un Frédéric Fromet. Aujourd'hui, ça parle recherche de logement.
Eh bien, Alex, nous allons commencer la semaine avec votre idole. Ça vous fait plaisir?
Mais bien sûr, laisse-moi vivre ma vie.
Frédéric François.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bonjour Frédéric François.
Bonjour, gros bisous à vous tous, je suis très heureux d'être là.
Bah nous aussi, on est très heureux de vous retrouver sur France Inter. Frédéric François, nouvel album Juste un peu d'amour et 50 ans de carrière avec une tournée européenne qui a démarré dans ma ville, à la Louvière, en Belgique, le 6 avril. Eh oui, bien sûr, en Wallonie. Alex Vizorek, vous laisse avec votre idole.
Frédéric François,
oui.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes échoué sur l'île de l'amour?
Oh, oui, pourquoi
pas. J'ai bossé cette question hein, avec les professionnels de l'antenne.
Hein. Ça serait sympa. Ça serait sympa.
Oui. C'est un peu ça. On peut pas imaginer un album de Frédéric François sans chanson d'amour, de toute façon.
Oui, pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'amour. Je pense que c'est... Allez, l'amour, pour moi, c'est l'impulsion émotionnelle la plus forte de l'être humain. Et donc voilà, nous, les êtres humains, on ne pourrait pas vivre sans amour. Mais bon, il y a mille façons de chanter l'amour aussi. Hein.
Et après, votre public vous attend là-dessus en partie. Oui. Et puis, vous essayez toujours de glisser d'autres thématiques.
Comme
la mélancolie, l'écologie un peu, cette fois-ci.
Un peu.
Et on a
appel au djihad aussi. Quoi. Ça, c'est plus surprenant. On puisse te cacher.
Et l'Italie. Vous parlez de le pays d'où vous venez.
Bien sûr.
Il y a souvent des chansons là-dessus.
Bien sûr. sûr.
C'est quoi la recette quand on a un ballotin qui est l'album? Ça se dit en français ballotin pour mettre des pralines.
Ouais. Ah.
Voilà. Comment on choisit les
C'est joli comme mot.
Ouais, non, j'ai bossé. Ouais. Comment on choisit les 12 pralines à mettre dedans que sont les chansons?
C'est difficile.
Vous vous dites il faut 6 chansons d'amour et puis il faut.
Non, c'est difficile. Voilà, j'ai sur un an par exemple j'ai composé peut-être une vingtaine de chansons. Et puis voilà, il faut les choisir. Alors j'ai 4 paroliers qui travaillent, j'ai 2 orchestrateurs. Et puis j'essaie de varier sur l'album des chansons qui vont intéresser les gens.
Vous parlez de vos paroliers, vous écrivez la musique systématiquement.
Oui, moi j'ai écrit toutes les musiques que vous connaissez, que vous chantez, que vous avez chanté tout à l'heure.
Et donc voilà. On va continuer à chanter, je vous préviens déjà.
Quand vous chantez Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, Chicago, laisse-moi vivre ma vie, c'est moi qui me suis mis un jour au piano et puis à ma guitare et puis voilà, la mélodie est arrivée, Dieu sait comment, et voilà, et ça devient un tube.
Et alors il y a des chansons où vous dites que vous aimez, il y a des chansons où vous parlez de l'amour universel et des chansons où vous dites que vous avez aimé. Comment vous acceptez d'interpréter tout ça? Parce qu'à quel moment on trouve le vrai Frédéric François, celui qui... Parce que vous pouvez pas aimer, avoir aimé, aimer tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme?
Non mais si j'avais vécu toutes les chansons que j'ai écrites...
350 chansons, voilà. Et combien de femmes?
Imaginez, hein. Bon, c'est vrai que...
Il y aurait une chanson sur la MST aujourd'hui, à mon avis, si c'était le cas.
Oh le salaud. Vous pouvez mettre des petits coups dans les tibias, si vous voulez.
Attention, le sexe est quelque chose de très important. Hein, parce que ça vous donne, ça vous fait, comment je veux dire, dans la tête, ça vous transforme, vous devenez poète, vous avez l'inspiration, et donc c'est très important tout ça. Bon, je passe tout ça.
Clara hyperventile.
Non, c'est pas ça, mais c'est que ça, ils comprennent pas, ils sont puceaux.
Ah, voilà pourquoi.
Oui, mais vous l'abordez de manière poétique, vous dites me réveiller près de toi. Vous parlez
c'est
pas
important.
De la nuit d'avant.
Non, mais comme c'est important dans un couple de se réveiller à côté de quelqu'un qu'on aime, de lui dire bonjour.
Alex connaît pas bien ça.
Non, c'est ça.
Voilà,
c'est ça.
Reste au lit, je te prépare le petit déj et je t'appelle après. Tout ça, ça fait partie de notre vie. C'est tellement important.
Ouais, c'était ma chanson préférée de l'album. C'est me réveiller près de toi. Voilà, vous êtes tous des salauds, vous n'aimez rien.
Ah, c'est vrai.
Ouais, je vous le dis.
Écoute, alors ce sera le prochain extrait. Oui, je penserai à toi.
Frédéric François. St. Francis Street. Jukebox, baby, you're playing a new beat. Cadillac came, watch for the hand. Jukebox, baby. Little lady, says my name. Jukebox, baby, you're playing a strange game. Fly trumpet player, looking for fame. Jukebox, baby. Oh, jukebox, baby, you're playing Johnny Rep. Oh, hot shot gambler, looking for play. Jukebox, baby. Electron woman, jukebox baby, playing number 4. The Avenging Angel defeating the poor. Jukebox baby. Jukebox Babe de Alan Vega, que vous aviez bien sûr reconnu.
C'est un ami.
Frédéric François est avec nous et abordons ce premier sujet. Parlons de Pia Klemp, c'est une humanitaire allemande qui risque jusqu'à 20 ans de tôle en Italie pour avoir secouru des réfugiés en Méditerranée. Au pays de Salvini, tendre la main devient donc un délit. En revanche, tendre le bras, ça passe mieux. Le sauvetage en mer est criminalisé. En France, on n'en est pas loin non plus et d'ailleurs, ça commence toujours comme ceci.
Sébastien, que fait ce gosse dans ta chambre de bonne?
C'est pour l'association.
Quelle association?
Pour les sans-papiers. J'ai décidé de prêter ma chambre à une famille qui vient des Philippines.
Quoi? Tu plaisantes?
Bah non, ils en ont plus besoin que moi, tu crois pas?
Mais tu te fais du dingue, tu vas pas laisser ta chambre à des sans-papiers que je l'ai même pas.
Ah ouais, tu défends le système, forcément.
Bon, écoute... Moi,
non mais ton avis m'intéresse pas.
Ouais, bah dis plutôt que tu te sens plus à l'aise dans un 200 mètres carrés. Mais ne nous fais pas le coup du militantisme indigné.
Laisse tomber, on n'a rien en commun. On n'est pas du même côté de la barricade.
Mais quelle barricade, Nathalie? Il est sur une barricade maintenant.
Extrait du film « Une heure de tranquillité », un film de Patrice Lecomte avec notamment Christian Clavier. Quel regard vous portez sur l'Italie et cette criminalisation des gens qui essayent de sauver de la noyade les migrants?
Moi, je pense qu'ils ont oublié le principal. Ces gens qui, voilà, ils sont dos au mur, qui essaient de retrouver leur dignité, qui fuient la guerre, qui veulent... qui partent avec des enfants, avec leurs femmes, pour retrouver une vie meilleure. Voilà, ils oublient tout ça. Voilà, ce sont des êtres humains comme nous. Et voilà, moi, le premier, mon père a émigré à un moment donné pour retrouver sa dignité. Il a laissé ses parents en Sicile, il a abandonné sa Sicile, ses amis et tout, pour retrouver une vie meilleure. Parce que là-bas, bah, il ne pouvait plus vivre. Il travaillait une semaine dans les mines de soufre. Et à la fin de la semaine, voilà, ils avaient de quoi acheter un kilo de pain. Donc ces gens-là, ils fuient la guerre, ils veulent retrouver une vie normale, vivre. On ne vit qu'une fois. Et donc, voilà, ils s'en vont. Comment on peut les traiter de cette façon-là.
Et parlons justement de cette immigration italienne en Wallonie, donc dans le sud de la Belgique, dans la partie francophone, qui est très conséquente. Il y a, je pense, plus de 200 000 Italiens. Ouais, ouais, il y a même une ville à Charleroi où un citoyen sur six est d'origine italienne, en réalité. Ouais. Je vous en parle, je suis jugée partie parce que j'ai grandi dedans.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, parce que je me souviens d'un article du Monde que j'avais lu, alors j'étais plus gamine et j'ai retrouvé l'archive, qui explique que l'immigration italienne en Wallonie, c'est quasiment une symbiose. C'est-à-dire que c'est même pas de l'intégration ni de l'assimilation, c'est que la mayonnaise a tellement bien pris qu'on fait plus la différence entre italien et belge. C'est quelque chose de très particulier.
Oui, je crois que le peuple italien s'est intégré d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, je dirais que, allez, 90% des Siciliens ont marié des Belges. Voilà, moi j'ai 4 enfants, j'ai 2 enfants qui sont Belges et 2 enfants qui sont Italiens. Voilà, c'est complètement fou. Ouais. Mais voilà, en Wallonie, le Wallon était comme le Sicilien. Voilà, c'est la même culture, c'est une langue...
Voilà, où la notion d'Europe prend une double
latine.
Valeur.
C'est très étonnant.
Il y a quand même eu au départ des moqueries. C'était les macaronis au départ.
Ben oui, mais
tout
voilà.
Tout affectif, on les appelle macaroni.
On voit arriver des gens gominés avec des costards et tout, voilà. Et puis, au départ, ils étaient seuls, les hommes. Donc, voilà, et quand ils ont vu toutes ces femmes...
Beaucoup de mariages mixtes.
Non seulement les mariages avec les Belges, la cuisine, les restaurants et tout. Et
les chanteurs aussi.
Et puis les chanteurs, faut pas les oublier. Je sais pas, ce sont deux peuples qui se marient vraiment très très bien.
Frédéric François avec nous, et pour en parler, Thomas Croisière.
Oh, je t'aime à l'italienne.
Cela fait 50 ans qu'il nous aime à l'italienne, Francesco Baracato, le plus français des Italiens de Belgique, avec Claude, Je suis Rital et Je le reste Barzotti, et le duo qui laisse ses mains sur mes hanches, Salvatore et Adamo. L'occasion pour moi de vous parler de lui avec un top 4 des reprises de Frédéric François, car on ne reprend jamais une chanson par hasard. Numéro 4.
Qui sera, qui sera, qui sera.
catégorisé comme C. Jérôme, Dave ou Mike Brandt parmi les chanteurs à minette, est bien meilleur vitrier que ce dernier. Vous lui rendez hommage en reprenant Qui saura. L'occasion de se remémorer les 70s, où je vous en veux de ne pas vous être qualifié pour l'Eurovision avec Comme tous les amoureux. Sans doute mon plus grand regret de la décennie avec la mort de celui dont vous partagez le patronyme, Claude François. Claude, qui n'avait pas de problème de reprise, mais de prise, et qui, contrairement à Jean-Pierre François, ne nous survivra pas. Pas même dans les miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat ou les ailes d'un oiseau. Jean-Pierre, Claude et vous étant également de la catégorie des chanteurs à double, voire triple prénom, comme George Michael, Billy Joel, Elton John et Patrick Sébastien. Numéro 3.
Je te donnerai tous les bateaux. Tous les oiseaux, tous les soleils.
Tous les bateaux, tous les oiseaux de Michel Polnareff, dont vous fîtes la première partie à 16 ans et qui resta votre idole. Et même si mon Michel préféré s'appelle Sardou, je ne vous en veux pas, car comme lui, vous étiez chez Tréma dans les années 80, comme lui, vous avez chanté 350 chansons, et comme lui, vous avez été un enfoiré. Et si Michel aime bien la Chopine, vous, votre truc, c'est Chopin. C'est en choisissant ces deux prénoms que vous vous êtes trouvé un nom, Frédéric François. Et soudain, je me dis que si Hervé Fornier avait été amateur de classique, on aurait eu un chat sauvage nommé Wolfgang Amédée plutôt que Dick Rivers. Repose en paix, Dick. Frédéric François, plus propice que Baracato pour réussir au hit parade français, même si un Baracato vous inspira toute votre vie. Votre père Giuseppe, à qui vous devez vos yeux charbon et votre bel organe. Organe qui fait vibrer les femmes, votre passion depuis trois générations. Elles sont pour vous la lumière du monde et la plus lumineuse s'appelle Monique, avec qui vous fêtez aussi vos 50 ans de carrière. Lors de vos noces, complétant ainsi celui de vos disques d'or. 83 au compteur, mais quand il aime, le public ne compte pas. Numéro 2.
Love me tender, love me sweet.
Comme Elvis Presley, vous aimez qu'on vous aime tendre, qu'on vous aime vrai. L'amour, omniprésent dans votre discographie, fait que vos fans vous ont sacré la voix de l'amour. Et au fond, Frédéric, que cherchent tous ces gens qui s'endorment sans un mot? Que veulent tous ces gens qui se couchent, le cœur gros? Juste un peu d'amour, comme le rappelle votre dernier album. Vous êtes le Barry White blanc, si je me rends bien compte que c'est un pléonasme. White, blanc. Si Johnny était le Elvis belge, vous êtes sans mentir le Rulio d'Outre-Quiévrin, le Sinatra du pays plat. Numéro 1. Les Sinatra que vous reprenez avec votre fille Victoria. Et c'est aussi ça que j'apprécie chez vous, Frédéric. Vous semblez n'avoir peur de rien. Ni de reprendre Elvis the King Presley, ni de vous attaquer à Frank the Voice Sinatra, ni de ne jamais chercher à être à la mode. Ce que vous demandez, à l'instar de votre amie Dalida, qui réclamait qu'on la laissât chanter, c'est qu'on la laissât danser, c'est qu'on vous laisse chanter. Peut-être même con la guitarra in mano, parce qu'au fond, vous êtes un italiano. Pire, vous êtes un siciliano. Un siciliano vero. Né à 50 km de Corleone, comme Don Vito, vous savez que le plus important, que ce soit celle d'où l'on vient, celle que l'on a construite ou celle que l'on s'est choisie, le plus important, c'est la famille. Pardon. La famille. Cette conception de la vie par la massinéphilie, et vous la célébrez en reprenant Parla più piano de Nino Rota avec Roberto, the ténor Alania. Lui aussi du clan des Siciliens, et là aussi, il fallait soit être inconscient, soit Frédéric François pour oser s'y frotter les cordes vocales. C'est pour tout ça que je vous dis grazie mille, Don Francesco Baracato.
Grazie.
Sur France Inter, en compagnie de Frédéric François, abordons cet autre thème. L'anglais est une langue qui file des complexes à tous ceux qui ne maîtrisent pas très bien, parce qu'on y est confronté presque tous les jours, c'est vrai, puis surtout dans le monde de l'entreprise, qui est truffé de mots en ing et dans la vie quotidienne aussi.
Ça y est, maman, je suis là. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que Vanda est une imbécile.
Qui c'est Vanda?
Vanda, c'est ma femme de ménage.
C'est pas Kai, ta femme de ménage?
Mais non, il y a longtemps que je l'ai virée, celle-là. Cette andouille de Vanda me dit qu'elle pèse 15 kilos alors qu'elle en pèse 50.
Elle a dit 15 ou 50?
Mais qu'est-ce que ça a à voir?
Mais ça a à voir, je te jure, maman.
Elle a dit 50. Ça te va?
Ben oui, ben 50 c'est 50, maman. Oui. C'est 15, 15.
Ah bon, parce que maintenant il faut être bilingue pour voyager pas cher.
Brillantissime, le film de Michel Larocque avec elle-même et Françoise Fabian. Le Monde, dans son supplément intitulé L'Époque, relaie notamment le témoignage d'une jeune fille de 26 ans qui dit « L'anglais, c'est comme le bac, il faut l'avoir. Si tu l'as pas, c'est la honte, tu te sens exclu. » Et beaucoup de témoignages s'enchaînent en disant que quand on maîtrise pas l'anglais dans la vie courante, ça peut être assez gênant. Vous pratiquez bien l'anglais, vous, Frédéric François ?
Yes, I speak English, but the problem is I have to practice. Because if you learn English, it's not enough.
Il dit qu'il déteste Franck Michael et qu'il le provoque en duel le matin. Je suis obligé de traduire, hein. C'est ça. Tout le monde n'est pas bilingue.
Le pauvre, vous ne pouvez pas dire ça de lui, parce que ce n'est pas vrai.
J'aime bien créer des clashs comme ça. Comme
oui, non. Alors, qui dit invité d'honneur, invité spécial, dit peut-être l'arrivée de notre mascotte.
Voilà. Normalement, Frédéric François, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, tout ça, mais pour vous, on a plus gros. On a préparé comédie musicale.
Allez.
Ah, voilà. Frédéric Fromet est avec nous autour de la table. Vous nous faites un accord pour vous prouver ? Voilà, il est là.
C'est lui, c'est le vrai.
Donc on a trouvé que votre répertoire, Frédéric, en fait sur un sketch en lien avec l'actu, collait bien à la situation du parti Les Républicains en ce moment où ça va pas très fort.
Ah bon.
On est tous un membre des Républicains et ça va pas très fort notamment pour Laurent Wauquiez.
Laisse-moi vivre ma vie.
Franchement, ouais, tu peux y aller, vas-y, on s'en fout.
Me retiens, surtout pas.
Tu peux compter sur nous, là.
Dégagez, mon pote.
Je ne sais plus où j'en suis.
Ah bah, nulle part, apparemment.
Ouais, t'es pas.
Je ne plais plus à personne.
Je confirme.
Rachida Dati n'hésite pas à enfoncer le pauvre Laurent.
C'est toi qui pars, c'est toi qui pleures.
Et tout ça à cause de Bellamy.
Tu laisses enfin parler ton cœur.
Ma passion, c'est ma région.
Tout juste avant de nous quitter, moi je n'ai pas de regrets.
Gérard Larcher, lui, appelle discrètement Valérie Pécresse.
Est-ce que tu es seul ce soir ?
Complètement seul.
Est-ce que ton cœur a envie de me voir ?
Oh, c'est ça, dans tes rêves.
Même si la vie nous sépare.
Oh, quelle tristesse.
Tu sais bien, j'ai le droit de savoir.
Non.
Mais Valérie n'est pas convaincue et choisit de quitter les Républicains.
Mon cœur te dit je t'aime plus. Il ne sait rire que ça.
C'est pas gentil parce que tu t'aimais pas.
Mon cœur te crie je t'aime plus.
À chaque
fois qu'il bat.
Et donc pour sauver la droite, il n'en reste plus qu'une.
Morano. 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 Moi, je vois comme chef de parti Nadine Morano. Elle n'a pas comme belle amie fait de la philo. Moi, je vois comme chef de parti Nadine Morano. Elle ne pourra pas être pire que Lolo.
Morano. Morano. Morano.
Nous voilà déjà arrivés à la mi-temps de cette émission. Une mi-temps qui ressemble à une troisième mi-temps parfois parce que c'est festif avec lui.
Mais exactement, Guillaume Meurice s'intéresse au bonheur, au travail, déjà tout un poème. Et une fonction que vous aimez beaucoup, Charline, les happiness manager.
Je suis fan.
On écoute.
Je rêve de devenir ça, moi.
Notre-Dame, toujours. Hein, il va falloir reconstruire en 5 ans, a dit Monsieur Bricolage hier à 20h. Hein, on voit bien que la dernière fois qu'il a planté un clou, c'était sur le cercueil du socialisme en 2017. Mais bon, ça ira toujours plus vite qu'au Moyen-Âge. Il a fallu presque 2 siècles pour la construire avec des dizaines de morts par jour. On n'a pas le détail, mais à l'époque, l'inspection du travail, bon, ça ressemblait au MEDEF d'aujourd'hui. Hein. C'était terrible. Et on fait un petit big up au passage à Quasimodo Roux de Bézieux. C'est vrai que la CGT, ils n'avaient pas le temps de prendre un mégaphone. C'était direct à poil dans les douves. C'était quand même une autre époque. Alors aujourd'hui, le rapport au travail a changé, puisque la France est toujours la fille aînée de l'église, mais elle est surtout devenue la petite cousine d'une Instagrammeuse de la start-up. Ça, c'est nouveau. Sur le chantier initial de Notre-Dame, tu prenais pas en photo ton plat. Par exemple, déjà, quand t'as un plat, t'étais content. Voilà, donc, quand même, ça change. Et aujourd'hui, dans les boîtes, on a des happiness managers. Alors, c'est des gens chargés du bonheur au travail. Je suis allé à leur rencontre ce matin. Vous allez voir, je trouvais des spécialistes qui m'ont tout expliqué.
C'est le bonheur en entreprise, c'est améliorer la qualité de vie au travail justement pour les salariés. Un salarié heureux, ça va être un salarié plus productif.
Qu'est-ce que vous faites alors concrètement ?
Alors par exemple, pour Pâques, on organise des animations dans les entreprises. On a également la fontaine de chocolat également qu'on met à disposition pour l'espace de quelques heures permettre aux salariés de s'évader.
Ça sur le chantier de Notre-Dame, à l'époque, ils n'avaient pas. Il n'y avait pas de corsosé, il n'y avait pas de fontaine de chocolat. Alors ils avaient un jeu qui consistait à tirer sur les bras des lépreux, puis celui qui détachait, voilà, il gagnait un lot. Bon, c'est équivalent, mais il n'y avait pas de happiness manager. Aujourd'hui, le monde du travail, c'est un vrai chemin parsemé de joie de vivre et de pétales de rose. Et je dirais même plus, le bonheur en entreprise, c'est très simple.
Un salarié triste ou malheureux, qui a ne serait-ce qu'une petite bouteille d'eau pour justement boire un coup, voilà, ça fait toujours plaisir. Ou la petite boîte de friandises, ou même encore, on est beaucoup axé sur les produits healthy, bio, etc.
Encore une fois, pourquoi tant de mortalité sur le chantier de Notre-Dame ? Parce que les gars, ils bouffaient de la merde. Il faut le dire aussi, ils buvaient de l'eau croupie, c'était le flunch tous les jours, le truc. Avec staphylocoque doré à volonté, quoi. Aujourd'hui, le salarié, il est en dépression, qu'est-ce qu'on fait ? Petite bouteille d'eau, hop, on est tranquille, c'est reparti. Aujourd'hui, on a...
Qui va être office manager ou happiness manager.
C'est quoi la différence entre les deux ?
Ça se rapproche, enfin ça se ressent particulièrement, mais après l'happiness manager, un office manager est un happiness manager et un happiness manager est un office manager.
Voilà, d'où la confusion parfois entre les deux. C'est pour ça, moi j'ai tendance à dire branleur. Comme ça, ça regroupe, c'est un terme générique. Vous pouvez dire happiness branleur, office branleur, c'est ce que vous voulez. Voilà, mais si vous mettez branleur, on pige bien de quoi il s'agit, même si les techniques de management évoluent évidemment.
Il faut intégrer là-dedans effectivement les techniques de management et en particulier de change management, parce que quelque part aujourd'hui...
Qu'est-ce que c'est du change management ?
Le change management, c'est d'être capable de faire passer tout l'univers de l'entreprise à du management sur des gens qui font du home office.
Le change management concerne le home office.
Absolument.
Voilà, et ça, encore une fois, les gars qui taillaient la pierre à l'époque, ils voulaient rien savoir. Tu leur parlais de home office, ils te foutaient un coup de massue sur la gueule, quoi. Hein, c'est quand même des mecs qui n'ont pas fait une seule conf call pour matchmarker les bénitiers. Et aujourd'hui, je veux dire, on en paye le prix. Voilà, c'est ni fait ni à faire, ça se pète la gueule. Alors, on doit faire payer des pauvres actionnaires de LVMH, hashtag je suis sac de vieille Vuitton. Donc, prenez soin de vos happiness manager officer.
Ou on appelle ça aussi les floor captain.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est la même chose, avec un terme un peu plus rigoureux que chief happiness officer, mais voilà, c'est
floor captain.
Floor captain, c'est des gens qui sont
les capitaines de sol.
Oui, qui sont capitaines des étages, par exemple, et qui sont l'homme service, de point d'accroche au niveau de tous les services que l'entreprise peut amener.
Et voilà, et ben pareil, s'il y avait eu un captain floor au niveau de la charpente, voilà, ça aurait été plus solide. Et même s'il y avait eu un captain floor lundi soir, ben peut-être que les ouvriers, ils parleraient mieux anglais. Déjà, hein, puis Michel, lundi, quand il est rentré chez lui, il aurait pas dit « Merde, attends, quand c'est marqué « on » sur le chalumeau ?»« Oh putain, je sais plus, je crois que j'ai fait une boulette, Josiane. » Bon, voilà, les solutions, on les a. Hein. Pourquoi, par exemple, on ne construit pas des cathédrales en coworking ?
L'espace de coworking, c'est un espace de copartage de différents travailleurs.
Et c'est quoi la différence entre un espace de coworking et un open space ?
Ça n'a rien à voir. Un espace de coworking, c'est un espace, effectivement, d'échange de plusieurs personnes.
Et un open space, est-ce que c'est pas la même chose ?
Dans un espace de coworking, vous pouvez avoir de l'open space, évidemment.
Mais on ne peut pas avoir de l'open space dans le coworking.
Non.
Voilà, c'est pour ça que j'insiste, pour qu'on soit bien précis là-dessus. Sinon, ça donne des catastrophes industrielles comme Notre-Dame ou les chroniques d'Hippolyte Girardot ou le monde du travail en général. Parce que le travail tue. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment les chiffres, hein, toujours par centaines, le chômage aussi. Donc, adieu le Moyen-Âge, bienvenue au Moyen-Aging.
La côte en haut de la ville est avare en ombre l'été. C'est la ronde indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il y marche comme l'on vole, l'air de ne pas y toucher. Le moindre bruit semant la folle, le fait se redécourager, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour l'attire, c'est ce que ce sont, lui dit que tout son latin se divise. Aux volets bleus et entrouverts, aux vélos verts, à ce à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour, sur soi. La pente en haut de la ville est avare en ombre l'été. Cela, cela rend indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il en redescend comme on sort.
Baltique qui chante l'art de la défaite, et il n'y a pas de transition avec L'Avantage du doute, qui est un collectif théâtral composé de Judith Davis, Claire Dumas, Simon Bacouche, que vous avez peut-être vu dans le film Tout ce qu'il me reste de la Révolution, film qui est devenu culte dans cette émission par Jupiter, et donc c'est avec plaisir qu'on les reçoit, qu'on les réécoute.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue, L'Avantage du doute.
Merci. Merci.
Collectif.
Oui, donc vous allez faire toutes les réponses en même temps.
Absolument.
C'est pas impossible.
De façon polyphonique. Vous êtes en ce moment au Théâtre de l'Atelier, dans La Légende de Bornéo, avec aussi Mélanie Bestel et Nadir Legrand. C'est une, ce qu'on peut dire, c'est une pièce à sketch sur l'aliénation au travail, sujet violent. Sujet violent, on ne peut pas faire une mise en scène classique. Vous impliquez énormément le spectateur. Comment est-ce que vous allez le chercher, L'Avantage du doute ?
Comment on va chercher le spectateur ?
Ouais, Judith Davis.
Déjà, il est tout le temps dans notre tête, en fait, quand on écrit, dans le processus d'écriture. On s'est réunis, nous, on était des acteurs au départ, et on s'est réunis, je crois, sur...
Et on ne l'est plus, hélas, pour les spectateurs.
Non, mais
on
sur fait écrire. Une conception commune, il y en a plein, mais l'une d'entre elles, c'est qu'on considère que l'espace de la représentation, c'est un espace-temps commun avec le spectateur. Et du coup, on va même plus loin, puisque comme on écrit en nous adressant directement au spectateur, qui fait vraiment partie de l'espace de représentation et que c'est un partenaire direct, en fait, on s'adresse à lui tout le temps.
Je rappelle La Légende de Bornéo, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de suite, ça fait une unité aussi avec Tout ce qui me reste de la Révolution, c'est Simon, c'était la pièce précédente dont vous avez tiré un film. Juliette Arnoux.
Alors, qu'est-ce qui vous différencie réellement du théâtre traditionnel ? Moi, de ce que j'ai vu samedi à 19h, quasiment tout dans la forme. Effectivement, on commence, le rideau est ouvert, la lumière est dans la salle et elle reste un bon moment.
Simon vend des gaufres.
Simon fait semblant de vendre des gaufres.
Ouais. Roger, non, il est carrément.
Il garde l'argent de la vente, je partage.
Ah bah ouais.
Donc ça, c'est pas bien, Simon.
Bah
ça,
si, parce que j'ai les matières premières à acheter, le beurre, la farine.
L'argent du beurre.
Bah, je regrette de pas en avoir chopé. Donc c'est sur la forme que vous changez à peu près tout par rapport à ce qu'on appelle le théâtre bourgeois. C'est délibéré, ça vous fait.
Non mais maintenant il y a du théâtre bourgeois sans rideau, hein, faut bien le savoir.
Claire Dumas, parce qu'ils ont pas vraiment... les moyens de payer le rideau.
Non mais parce qu'en fait, en vrai maintenant tout le monde a vraiment pété ce qu'on appelle le quatrième mur, enlevé le rideau, donc il y a beaucoup de théâtre qui se fait, disons formellement, on peut avoir ce goût-là dans plein de théâtres à vrai dire. Moi je trouve que ce qui nous différencie, c'est surtout la manière dont on le fabrique, et je pense que ça se ressent. C'est pour ça que maintenant, moi, quand on me dit est-ce que c'est un spectacle à sketch, je me dis ben oui, c'est à sketch dans le sens où il y a plein de styles différents, je pense, dans le spectacle, et ça, c'est le fruit du fait que chacun y va vraiment avec sa vraie colère, sa passion, ses envies et sa façon d'écrire.
Et dans l'écriture et la préparation, c'est très documenté. Vous lisez les sociologues, les psychologues du travail, les enquêtes, les témoignages. Donc il y a un socle sociologique et idéologique très solide. Comment après vous en faites du théâtre, et du théâtre avec beaucoup d'humour ?
Mais parce qu'on a aussi fait plein d'interviews, on a rencontré plein de gens. Donc en fait, il y a plein de matières premières, et chacun... Après, se retire de l'espace collectif où on a accumulé cette matière première de documentaires, d'interviews, de films, d'articles, et propose son écriture, qui peut être tout simplement dérocher une interview et c'est un texte, ou, comme disait Claire, moi j'ai écrit une scène de famille qui est à cheval avec aussi d'ailleurs une proposition que j'ai fait dans le film, parce que j'ai écrit les deux au même moment et que j'ai décidé de faire des ponts et de mettre des personnages communs entre le film et la pièce, donc... Et là, voilà, c'est très très différent que de dérocher un interview ou que Claire, par exemple, tu travailles en impro. Mmh. Tac, je te passe le mic.
L'aliénation au travail, par le truchement de l'intime et de l'humour
et
aussi.
De la gaufre.
Et de la gaufre, bien sûr. Par le collectif L'Avantage du Doute. Sont avec nous aujourd'hui Claire Dumas, Judith Davis et Simon Bacouche. Et autant vous dire, vous allez comprendre que nous, on a beaucoup trop aimé et qu'il faut absolument que vous y alliez. Philosophie Magazine a examiné les contributions individuelles au grand débat concernant notamment l'injustice sociale. Et il en ressort des suggestions liées au cas particulier de chacun. Jamais des propositions globales pour la communauté. L'individualisme nous a-t-il à ce point poussé à ne militer qu'en faveur de nos propres intérêts? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Petite métaphore pour comprendre.
J'ai fait le calcul dans ma tête. Et avec le nombre de canots de sauvetage multiplié par la capacité que vous avez mentionnée, il semble qu'il n'y ait pas assez de canots pour tout le monde.
Il en manque la moitié. En fait, j'ai fait installer ce nouveau type de passoire qui aurait pu contenir une rangée de bateaux de plus à l'intérieur de celle-ci. Mais on a pensé en lieu, malheureusement, que le pont aurait eu l'air trop encombré. Dormez sur vos deux oreilles, jeune Rose. J'ai construit un bon paquebot, solide et fiable. Il est le seul canot de sauvetage qu'il vous faille.
Vous aurez reconnu Titanic, bien sûr. L'allégorie. Philosophie Magazine. Portant une ce titre, qu'est-ce qu'une société juste? Et à l'intérieur, il y a notamment un article qui s'intitule « Tous égoïstes » et dont ils ont passé au tamis toutes les propositions pour essayer de pallier à l'injustice sociale. Et on se rend compte que c'est à chaque fois des arguments pro-domo. Je suis retraitée, donc je voudrais que ma retraite augmente. J'ai dans ma famille quelqu'un de handicapé, donc je suis jeune, donc, etc. Donc que des intérêts individuels accumulés comme ça dans les doléances, à tel point que finalement, c'est vrai que ce sont des algorithmes qui sont chargés de trier toutes ces doléances du grand débat. Alors on se demandait, on a pensé à vous qui êtes un collectif en voyant ce sujet, on s'est dit, mais est-ce qu'on en est à ce point qu'on n'est plus capable de faire une synthèse commune, qu'on ne fait plus de propositions pour autrui, pour l'intérêt général, qu'on pense qu'à soi, ou ce grand débat, pensé à l'échelle nationale, c'est totalement illusoire. Quel est votre regard là-dessus?
Alors, moi, comme j'avais très peur de dire des énormes bêtises
Claire
sur un sujet a priori important...
Vous avez préparé.
J'ai un peu préparé.
Allez-y,
et donc
allez-y.
Là, j'ouvre mon téléphone et j'ai essayé de me renseigner. Et donc, j'ai regardé les questions du grand débat. Et c'est un peu ce dont vous parliez tout à l'heure.
Oui.
Finalement, la première question sur la transition écologique, elle est un tout petit peu orientée. Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des économies? Bon, bah, je veux dire, je ne sais pas quoi dire. En gros, du coup, comment est-ce que les gens peuvent réfléchir en dehors d'un cadre, ouais. Puisque, en gros, c'est tout le temps ce cadre qui est proposé. Dans le grand débat, ça ne propose pas, pensez-vous, qu'il faille être carrément décroissant, enfin, un truc un peu percutant, quoi. Non, c'est genre, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec les petites taxes, les machins...
Donc, on est à la tiédeur, quoi.
Donc,
on impose le présupposé de la question, de la réponse dans la question.
Voilà, donc en gros, et tout est un peu comme ça. Alors, je me suis dit, il y a peut-être d'autres trucs. Puis finalement, après, on propose effectivement, comme vous disiez, de faire des économies. Plutôt sur quoi? Plutôt la défense, plutôt la sécurité, qu'est-ce qu'on a? On sait pas trop. Ou plutôt l'environnement, la politique de logement. Enfin, je veux dire, tu préfères être poursuivi par 40 canards ou habiter dans 2 mètres carrés, quoi. Enfin, c'est complètement absurde. Donc, en fait, c'est que des questions absurdes avec un présupposé. De toute façon, il faut survivre dans un monde hostile où, de toute façon, tu marches ou tu crèves. Donc,
Et où, de toute façon, le capitalisme n'est pas remis en question.
Absolument.
Pourquoi les gens, ils passent toujours par le jeu? Pourquoi ils passent par l'intime ou par leurs propres préoccupations, que ça soit sur la... retraités, donc je parle de la retraite. En fait, c'est pas un problème. Si c'est un moteur pour que eux, à un moment donné, s'expriment, évidemment, on est dans une société où à aucun moment on est habitué à s'inscrire dans un cadre collectif. À aucun moment, le paradigme de l'entreprise n'a pas contaminé, absolument tous les discours depuis la petite section de maternelle. Donc il faut réhabituer tout le monde à transformer cet intérêt personnel en intérêt commun, parce que c'est le même, il en est la prolongation, il ne s'oppose pas. Et c'est ce que vous faites, vous, dans votre art, puisque vous êtes un collectif. Oui, et qui partons en même temps de nos désaccords et de nos points de vue très précis et très singuliers. Ce n'est pas un compromis consensuel. Judith Davis, Claire Dumas, Simon Bacouche avec nous et à côté de vous, voici Pablo Mira.
Ouais,
Pablo, mon petit ange trapu à la sudation agressive. Vous nous parlez aujourd'hui de Game of Thrones, une série surcotée selon vous.
Ouais, ma louloute. Et alors, pour vous résumer ma relation avec cette série, eh bien, j'emprunterai une phrase qu'Alex Vizorek nous répète souvent après un date Tinder. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Pourtant, c'est là. série dont tout le monde parle. Grande classe, petit ange belge. Cette série d'Heroic Fantasy est diffusée en France depuis 2011 sur la chaîne OCS. Ce qui veut donc logiquement dire que ça fait maintenant 8 ans que les Français la regardent en téléchargement illégal. Alors au fil des années, même ceux qui ne la suivent pas, Game of Thrones, eh bien connaissent certaines répliques devenues cultes, telles que...
And winter is coming.
Mais aussi...
You know nothing, Jon Snow.
Et surtout, le fameux...
Win the yes, need the no to win, again the no.
Oui, bon, ça c'est l'épisode de cette nuit où Jean-Pierre Raffarin joue une princesse du désert. Le succès grandissant, la série est même devenue un marqueur social. Alors, ceux qui aiment Game of Thrones sont dans le camp des gens cool, et ceux qui, comme moi, ne l'aiment pas, sont considérés comme des humains de seconde zone, là, à peine dignes de vivre, autrement dit des intermittents. Si, faites le test autour de vous, dites que vous n'aimez pas Game of Thrones et on vous traitera de tous les noms, ringard, loser, Sébastien Lecornu, la totale. Pourtant, c'est une série bourrée de défauts. Game of Thrones, par exemple, moi je ne comprendrais jamais pourquoi les personnages sont terrifiés dès qu'ils entendent la phrase « Winter is coming ». À la limite, Ophélie, « Winter is coming », là oui, ok. Puis entre nous, un hiver qui met 9 années à venir, franchement c'est pas de l'Heroic Fantasy, ça c'est le bulletin météo d'Evelyne Delia en 2050. C'est pour ça que moi je suis pas un grand fan de ce genre, je préfère les séries réalistes pour le coup. Plutôt que de regarder Game of Thrones et ses dragons qui se battent contre des zombies, je préfère regarder Capitaine Marlowe et sa réalisatrice en train de se battre avec le surjeu de ses acteurs. Après attention, hein, c'est juste une préférence, hein, je suis pas fondamentalement contre les séries fantastiques. Par exemple, j'ai adoré aussi Eugene Friends, la série dans laquelle Gad Elmaleh joue son propre rôle et où il écrit lui-même ses blagues. C'est bien qu'on se mette à faire de la science-fiction de ce niveau-là aussi. Autre explication à ce rejet de Game of Thrones, plus répandu qu'on ne le pense, c'est que les gens, ils en ont marre des séries violentes. Il y en a marre de toutes ces scènes insoutenables, que ce soit dans Game of Thrones, avec ses personnages défigurés par des combats violents, ou dans la série Demain nous appartient, avec Ingrid Chauvin défigurée par la chirurgie esthétique. Parce que côté boucherie, Game of Thrones, c'est quoi techniquement? Écoutez bien, il bat tous les records. 175 000 personnages tués depuis la saison 1. Non, franchement, si j'ai envie de voir un feuilleton où la moitié des personnages disparaissent à chaque épisode, j'ai qu'à suivre le conseil des ministres chaque mercredi. C'est simple, moi, pour que mes filles puissent suivre les aventures de Jon Snow, etc. Eh ben, j'ai carrément dû couper toutes les scènes de sexe et de violence dans Game of Thrones. Bon, l'avantage, c'est qu'elles ont pu voir les 7 saisons ce matin en 5 minutes seulement. Mais du coup, moi, je préfère privilégier les séries où l'on peut regarder tout ça en famille, hein, comme Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, bref, des séries sans violence, sans sexe et sans ambition. Pour conclure, je rappellerai qu'il existe des tas d'alternatives à Game of Thrones pour celles et ceux qui aiment les séries, notamment des séries françaises très alléchantes pour le coup. Il suffit de feuilleter un programme télé comme celui que j'ai là pour s'en rendre compte. Voilà, je vais vous trouver des... Bon, salut.
Pablo Mira. Merci, Pablo. Judith et Davis, Claire Dumas, Simon Bacouche avec nous et on va aborder le deuxième sujet. Qu'est-ce qu'un patron de gauche? Dès lors qu'il existe un lien de subordination avec des employés, un patron peut-il mettre en pratique ses convictions ou doit-il faire des entorses comme ces parlementaires de gauche qui ferraillent contre le travail le dimanche mais qui font bosser leurs assistants le jour du Seigneur? Bref, le patron de gauche existe-t-il encore?
Je me souviens combien papa était aimé de ses ouvriers. Tu te rends compte? Il a dirigé l'usine pendant plus de 40 ans et jamais un seul jour d'arrêt de travail, même en 36. À chaque ouvrier qui partait à la retraite, il offrait une paire de charentaises, un parapluie numéroté et sa photo dédicacée.
Oui, c'était le bon temps.
Catherine Deneuve et Judith Godrèche dans Potiche de François Ozon. C'est une tribune parue dans Le Monde qui pose cette question. Est-ce qu'on peut être patron et de gauche? C'est une question que je vous pose parce que vous êtes un collectif. Donc vous êtes dit peut-être on va éluder la question. Il y a pas de patron et on reste de gauche quoi.
Et ben voilà.
C'est ça.
Pas mal, c'est pas mal.
J'ai mis la réponse à la question. Je fais ça souvent.
Il faudrait poser cette question à un patron de gauche.
Ouais. Vous pensez que ça existe, Simon, ça?
sais pas.
Patron de gauche.
De gauche, ça veut dire quoi? C'est compliqué.
Patron, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a une grande transformation de ce qu'est un patron. Quand on a écrit La Légende de Bornéo, on a regardé plein de documentaires sur les patrons et jusque dans les années 80, quand ils étaient mis en scène dans des documentaires, ils étaient vraiment. Tu nous avais apporté, tu te souviens, Simon, le documentaire de Mordillas, ça, Bonjour patron, c'était ça? Et du coup, il y avait vraiment le patron devant son bureau, le siège en cuir, enfin la mise en scène du patron. Et on regardait à partir de toute la phase de capitalisme actionnarial qui nous est arrivée depuis les années 80, on a vraiment des N plus 1 en fait. Et du coup, tout le monde devient le fusible d'une hiérarchie qui est de moins en moins palpable pour satisfaire un groupe de plus en plus restreint de gens qui en fait continuent d'asseoir leurs intérêts à travers cette fausse façon de brouiller la hiérarchie qui existe. Mais il faut juste plus qu'on parle de lutte des classes. Donc en fait, on enlève le mot patron et justement les N plus 1 dans les documentaires, ils étaient plus du tout la photo des gosses, du chien,
c'est
le
ce qu'on appelle la tyrannie du faux cool en fait.
Oui, peut-être que patron de gauche, soyons pas trop sévères non plus. Patron de gauche, on peut penser que non, mais c'est vrai, quelqu'un qui a quelques valeurs, oui, que peut-être les carnassiers, 100% carnassiers, ont peut-être moins, mais par exemple le fait de procéder à une forme un peu d'égalité des chances, c'est-à-dire de promouvoir des petits jeunes qui a priori sont moins équipés côté diplôme,
plafonner les plus hauts salaires aussi, c'est
bah par exemple, non mais c'est vrai, ou alors la transparence, ou une façon aussi
ou
de s'adresser aux gens,
des licenciements boursiers,
ou même une façon de s'adresser aux gens qui suppose un tout petit peu plus de courtoisie que si on était un numéro. C'est des choses, alors que ces valeurs-là deviennent de gauche,
de droite, gentil,
oui,
et complètement.
Oui, parce que moi, j'ai connu des metteurs en scène de gauche qui étaient des sacrés connards.
Voilà.
Et pareil, moi j'ai mon beauf qui a voté Sarkozy et qui a un magasin de meubles et il est aimé par tout le monde et c'est un type adorable.
Donc on aura salué ici la droite et je vous aime.
Non, mais après le collectif, vraiment pour finir, c'est le seul fil à plomb que nous on a trouvé pour justement trouver un espace de démocratie, de liberté, et c'est difficile, c'est très difficile, ouais. Mais bon, on peut reparler de la coopération et du collectif. Non, quoi.
Le collectif, l'avantage du doute, avec nous, et on voudrait jouer avec vous, nous, comme on est fan de vous déjà, eh ben, on serait super flattés.
Donc, alors, comme tous les soirs, un petit sketch. Ce soir, imaginez qu'Emmanuel Macron va faire son bilan du grand débat à la télévision, alors on sait imaginer que vous êtes tous les trois coachs qui vont mettre en scène cette allocution. Judith, Claire et Simon, vous êtes les coachs, et Guillaume sera
Manu
Macron. Mais
bien sûr, évidemment, voilà, je vais vous le faire.
Et Simon, Claire, et un sketch. Celui-là, c'est pour Simon. C'est parti.
Ouais, parti. Bon, je vous en supplie, aidez-moi les enfants.
Les enfants, ça commence mal.
Dans la Startup Nation, on est tous des managers.
Alors, vous avez raison. Bon, on a un business plan pour ce soir.
Ouais, faut tout axer sur la mise en scène.
Bon, si c'est bankable, je vous suis.
J'ai bien réfléchi au spectacle.
À l'allocution, Simon. C'est pas un spectacle, c'est une allocution.
Ouais, bon, c'est pareil. Alors, je verrais bien une intervention depuis un rond-point.
Ouais, ok, pour le théâtre des ronds-points sur les Champs-Élysées, ok.
Non, un vrai rond-point, dans un village, par exemple.
Non, mais c'est quoi ce pitch?
Il s'agit pas de cuire des merguez sur un.
Mais c'est le quinquennat qui se joue ce soir, là.
Quoi? Putain, je suis foutu.
Dites pas ça, vous êtes un winner.
Oui, mais c'est la première fois que je dois présenter mon programme.
Donc, ce qui compte, c'est l'enrobage.
Ne pas confondre avec l'enfumage.
Ah, dommage, parce que ça, je sais faire.
Ah, il faut que vous fassiez de belles phrases, si possible. Sans insulter les gens.
Les gens, c'est quoi ça? Vous voulez dire Jojo avec son gilet jaune, là, c'est ça?
Voilà ce qu'il faut pas dire. Ah, c'est ouais, complètement merde. Anti-team building, voilà, ça.
Vous vous arrangez pour faire croire aux Français que vos propositions sont les leurs.
Je sais, ouais, je vais leur vendre le coworking pour tous.
Pardon, mais j'ai comme un doute sur le feedback. Non,
en tout cas, faut créer un suspense, une tension.
Oui, et tout ça à partir du vide.
Oui, le vide, vous faites référence à mon livre Révolution?
Non, bah, si c'est tout ce qui vous reste de la Révolution.
Et si je me défilais? Si je partais en week-end au ski, là?
Ah bah voyons, et pourquoi pas à la messe, à la réunion avec Nathalie Loiseau?
Bravo, excellente scénographie! Avec la sacralisation de l'architecture religieuse qui renvoie vers les plus grandes mises en scène dramatiques.
Oui, bah calme-toi, Simon, c'est pas vraiment le bon process. Bon,
là. Bah, je fais quoi, là? C'est bientôt la deadline, là, il me faut une idée.
On a qu'à appeler Castaner.
Castaner? Pour une idée?
Bah, vous annoncez la discothèque gratuite pour tous.
Diversion parfaite.
Encore? La diversion, c'était déjà le principe du grand débat.
Quelle ambiance avec ce collectif théâtral. L'avantage du doute. Et sachez qu'ils continuent de sillonner la France avec leurs différents spectacles dont vous aurez peut-être encore la chance de les voir sur scène. On vous renvoie à leur site internet.
Mais bien sûr,
l'avantage du doute. Lui, il nous met le doute chaque semaine. Et là, on va en profiter. Cette semaine, ce sera même chaque jour.
Chaque jour, un Frédéric Fromet avec sa guitare. Et aujourd'hui, ça parle logement.
Eh bien, il paraît que les candidats à un logement seraient discriminés s'ils sont arabes ou noirs. À défaut de pouvoir visiter des appartements, qu'ils se contentent de revisiter la chanson française. Dis-moi,
Nordine, j'ai pas lu ton dossier. Pourquoi as-tu pensé que je l'étudierais? Comment peux-tu vouloir vivre ici si tu t'appelles pas Jean-Marie? Non, 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 ne postule pas, non, ne postule pas. Tu as aucune chance, mon vieux. Ne postule pas, non, ne postule pas. Sur un trottoir, tu seras bien mieux. Égaré sur le bon coin infernal, le blaireau s'appelle Abderrahman. À la recherche d'un deux pièces cuisine, au lieu naturellement d'une tente bédouine. Mais non, ça veut un appartement, malgré un prénom de migrant. Abderrahman qui se croit local, avec son chèche et son couscoussier. Abderrahman, c'est pas Marie Chantal, et son serre-tête et son fraisier. Tes états d'âme sont pour moi tariq, comme des tam-tams en Afrique. Pas de harem, tu m'entends tariq. Tu feras pas ton petit trafic. C'est un appart, pas un squat tariq. Pas un rassemblement ethnique. N'insiste pas, j'ai dit non tariq. Ton prénom est trop exotique. Oh Ramzi, tu savais tout le mal que tu me fais. Oh Ramzi, si tu pouvais t'appeler Robert comme un bon français. Mamadou, je m'en fous, ce n'est pas à toi que je loue. Mamadou, je m'en fous, on n'est pas à Ouagadougou. C'est pas ma faute si tu t'appelles Fatoumata. Regarde les autres, Marine ou Marion, c'est sympa. C'est pas ma faute à moi. Il fallait t'appeler Jordan comme Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est pas beau, mais au moins c'est facho.
J'ai l'impression que le lundi, ça passe très très vite l'émission.
Très vite, mais toujours, j'ai vu le programme de demain.
Oui,
ça
alors
donne déjà
demain,
envie de revenir.
Maxime Le Forestier, voilà, bien sûr, et Liliane Revers, que vous connaissez sans doute comme la doyenne des agents de 10%.
C'est elle.
Allez, à demain.